pour nos voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation pour les bébés et puis plus tard aussi pour les enfants. Est-ce que la petite enfance serait un âge clé pour l'égalité des chances ? À l'âge de 4 ans, les enfants des familles les plus pauvres ont entendu 30 millions de mots en moins que ceux des familles les plus aisées. Oui, vous avez bien entendu, 30 millions de mots en moins que ceux des familles les plus aisées. Or, le cerveau d'un enfant de 2 ans possède deux fois plus de connexions neuronales que celui d'un adulte. À cet âge, le potentiel d'apprentissage est maximum. Alors, pas besoin d'un bac plus 5 pour converser avec son bébé. La langue maternelle, les contes, en le regardant dans les yeux, en guettant ses réactions, sont autant de stimulations pour le bébé. En 2022, faut-il donc miser sur les bébés pour réduire les inégalités scolaires ? C'est la question qu'on se pose avec notre invité Florent de Bodman. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances. Je le dis parce que ça a son importance. Et vous avez, contre toute attente, cofondé l'association 1001 mots, une start-up associative, comme vous aimez la qualifier, d'aide à la parentalité. Et vous publiez aussi « À portée de mots, parler avec son bébé peut changer sa vie ». Et puis, il y a quelques jours, vous avez aussi rendu un rapport pour le groupe de réflexion Terra Nova. Investissons dans la petite enfance. L'égalité des chances se joue avant la maternelle. Ça sonne un peu comme un message au gouvernement qui a plutôt investi sur l'école primaire, avec notamment le dédoublement des classes au cours préparatoire. Et puis plus tard, au collège, au lycée, qu'en est-il aussi pour les matières scientifiques ? Est-ce que les maths seraient moins discriminantes socialement que les matières littéraires ? C'est la question qu'on posera aussi à notre invité, Clémence Perronnet. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Vous êtes en liaison avec nous, vous êtes sociologue en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest et vous publiez « La bosse des maths n'existe pas, rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques ». Et quant à vous, les voisins et les voisines, comment parlez-vous avec votre bébé si tout se joue avant 3 ans ? On attend bien sûr vos questions à nos invités au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis quelques messages, quelques réactions d'auditeurs. Madiang, qui est grand-père au Sénégal. Quand j'étais un jeune papa de 25 ans, et bien j'ai remarqué que quand je parlais à ma fille, elle me regardait fixement et elle semblait comprendre. Aujourd'hui, je suis étonnée par la capacité de mes petits-enfants à écouter, à réagir à ce que je leur dis. Ma petite fille de 1 an et 1 mois, quand je parle, elle m'écoute. Et si je lui demande quelque chose, elle le fait. Évidemment, quelque chose de simple. Mon propre père m'a toujours dit que les enfants comprennent plus que ce qu'on imagine. Il faut donc éviter de se chamailler avec sa femme devant les enfants ou quand elle est enceinte. Vous confirmez, Florent de Bodman ?
Alors,
ce que
oui.
Dit cet auditeur ?
Ah oui, absolument. Je pense qu'on sous-estime à quel point les bébés comprennent vite le langage.
Et c'est prouvé scientifiquement maintenant. Il n'y a plus de doute là-dessus.
Oui, parce que les neurosciences, elles observent de mieux en mieux le cerveau des bébés dès la naissance. Et on sait que, par exemple, dès la naissance, un enfant, il réagit à sa langue maternelle. Il la reconnaît par rapport à d'autres langues. Et à 1 an, il peut comprendre 80 mots. Donc, ce que dit cet auditeur, ouais, c'est tout à fait
énorme,
vrai.
Énorme, 80 mots à 1 an. Queen est au Bénin. Et voici ce qu'elle nous dit. « Mon neveu bébé ne s'ouvrait pas aux autres. Et un jour, je l'ai gardé. Et je me suis dit que sous ce joli sourire, il y avait forcément une âme. Alors, j'ai joué comme une folle avec lui. Au début, il était réticent et puis il a souri. Et quand il est parti, il m'a fait un câlin. Et je me suis dit que ses parents devraient passer plus de temps avec lui et lui accorder des moments de dialogue. Ma mère me parlait beaucoup, elle chantait avec moi. Et je veux dire à ceux qui ont des bébés de vraiment s'occuper d'eux, car les bébés sont des éponges qui absorbent tout ce qui se passe autour d'eux. Et puis, il y a aussi ce message d'un auditeur qui a posté sur notre compte WhatsApp, je vous rappelle le numéro 64 33 7 64 45 51 41. Écoutez Victor Ayaoundé au Cameroun.
Bonjour aux 7 milliards de voisins. Je ne pense pas qu'une famille de pauvres soit moins communicante qu'une famille de riches. Le plus important, c'est la communication. Quand il y a communication entre l'enfant et son entourage, l'enfant grandit très bien, développe une intelligence admirable. Comme ça.
7 milliards de voisins.
que nous sommes tous des voisins.
Et merci à Victor de commencer par cette analyse, cette réflexion personnelle un peu poil à gratter pour notre invité Florent de Bonneman, parce que c'est vrai que dire ça, dire que un enfant d'un milieu pauvre a entendu 30 millions de mots en moins que ceux des familles les plus aisées à l'âge de 4 ans, ça jette comme un embarras, comme une gêne, comme une culpabilité sur les parents les plus modestes.
Oui, parfois ce sont des réactions qu'on entend. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ce sont des moyennes, bien sûr. Donc il y a des parents qui ont peu d'argent et qui parlent beaucoup plus à leur enfant que des parents riches, bien sûr. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des inégalités d'accès aux ressources. Et je voudrais prendre un exemple, ce sont les livres pour les bébés. Il y a beaucoup de familles où c'est une évidence de regarder des livres avec son bébé. Notamment parce qu'on a reçu plein de livres en cadeau de naissance. Il y a des parents, à 6 mois, ils ont reçu 10, 20 livres en cadeau de naissance pour leur enfant. Il y a aussi d'autres familles où, à l'inverse, les parents n'ont pas imaginé regarder des livres avec leur bébé. Par exemple, parce que autour d'eux, personne ne le fait et personne ne leur en a offert. Ou aussi parce qu'ils peuvent se dire que c'est assez cher quand même. Un livre pour un bébé, ça peut coûter 10 euros, 15 euros. Et en moyenne, il y a beaucoup plus de livres pour les bébés dans les familles qui ont plus d'argent ou dont les parents ont plus d'études.
Ouais. Mais quelle est la réalité des études aujourd'hui et depuis une trentaine d'années sur le stock de mots, le stock de vocabulaire et la façon assez incroyable de différence de stock de mots pour un enfant du même âge dans un milieu social différent.
Eh bien, vous faisiez allusion au début à cette étude sur les 30 millions de mots en moins. C'est une étude américaine publiée dans les années 90 et elle montrait qu'entre des enfants de familles très défavorisées et des enfants de familles très aisées, il y avait deux fois plus de vocabulaire chez les enfants de familles très aisées. 1000 mots pour ceux-ci contre 500 mots pour les autres. Et il y a aussi une étude en France plus récente, un suivi de cohorte sur des milliers d'enfants et elle montre que dès l'âge de 2 ans, les enfants dont les parents ont fait le plus d'études, ils ont déjà plus de vocabulaire que ceux dont les parents ont fait moins d'études.
Ça veut dire que quand les enfants arrivent à l'école maternelle, une grosse partie des inégalités scolaires sont déjà en place ?
Oui, ce qui est assez tragique, assez incroyable de se dire ça. Mais effectivement, et alors peut-être pour illustrer ça concrètement, on peut prendre l'exemple de la lecture. Pour réussir à apprendre à lire en CP, il ne faut pas juste déchiffrer des syllabes et des mots. Il faut aussi comprendre les mots qu'on déchiffre. Et ça, du coup, un enfant qui arrive à l'école maternelle en ayant déjà beaucoup de vocabulaire, aussi en ayant envie de découvrir de nouveaux mots, de communiquer, ça va être plus facile pour lui de rentrer dans la lecture parce qu'il va plus facilement comprendre ces mots qu'on lui fait déchiffrer. Voilà, et c'est pour ça que, l'aisance dans le langage à 3 ans, à l'entrée en l'école maternelle, c'est un facteur très important pour la réussite à l'école.
Alors, expliquez-nous pourquoi il faut parler avec son bébé entre 0 et 3 ans, alors que précisément le bébé ne parle pas, ou très peu, en tout cas, à partir de 2 ans, certains enfants peuvent construire des phrases extrêmement simples, mais ça reste limité. Et comment le stock de mots construit le cerveau de l'enfant, pas seulement pour l'apprentissage de la lecture.
Alors oui, pourquoi c'est intéressant de parler avec un bébé ? C'est vrai que beaucoup de parents, notamment des papas, sont un peu mal à l'aise avec cette idée de parler à un bébé parce que il ne parle pas, il ne répond rien, donc on a l'air bête. En fait, ce que nous montrent les neurosciences, notamment ce chercheur Stanislas Dehaene, que je cite dans mon livre, ça nous montre que pour apprendre quelque chose, et notamment apprendre à parler, un bébé, il doit être activement impliqué, pas juste passif. Donc, il ne faut pas seulement parler au bébé, il ne faut pas juste que le bébé écoute, il faut aussi qu'il soit encouragé à répondre, à s'exprimer. Et c'est là où parler avec l'enfant, ça veut dire par exemple lui poser des questions. Un enfant de 1 an, comme l'évoquait cet auditeur au Sénégal, si on lui pose une question, il peut déjà comprendre pas mal de choses et il peut répondre à sa façon. Donc répondre, ça ne veut pas forcément dire un mot, mais ça peut être un sourire, un geste ou une syllabe.
Oui. Et même si on n'a pas de livre pour enfants, ça pourrait être, là on est dans un studio, il y a une lumière rouge qui signifie que nous sommes en direct, on pourrait dire à un bébé qui serait avec nous dans le studio, « Oh, tu as vu la lumière rouge ?» rouge. Regarde-la, tu la vois.
Exactement.
Ça pourrait être ça.
Exactement, absolument. Toutes les occasions de la vie quotidienne peuvent donner lieu à des questions. Un bébé, par exemple, vous êtes avec lui, il va entendre un bruit dehors, il va tourner la tête.
Ouais.
Et vous pouvez lui dire, ah bien, qu'est-ce que tu as entendu dehors ? Et une chose aussi très intéressante,
c'est... le bébé ne va pas répondre.
Ben, il peut répondre pas à pas par une phrase, mais il peut répondre à sa manière.
Ah oui,
et un moyen aussi d'encourager ça, c'est de laisser un temps de silence après avoir posé la question. Et ça, c'est aussi contre-intuitif, parce que c'est pas facile aussi, il faut avoir un peu de temps, de patience, mais il y a des orthophonistes qui conseillent de laisser 5 secondes après avoir posé une question. Donc, comptez dans sa tête 5 secondes, et ça va faciliter les choses pour l'enfant, parce que d'abord, il faut un petit peu de temps pour qu'il traite l'information, qu'il comprenne qu'on lui pose une question, et ensuite qu'il formule une réponse.
Ouais, ça veut dire que donc on ne met pas en place une logorée de phrases pour son enfant ininterrompue. Hein,
non,
c'est pas ça,
hein,
parler
oui.
à son enfant.
Oui.
C'est bien converser
oui.
et donc attendre un signe de son bébé.
Ça.
Il va pas être une phrase construite, évidemment,
non.
mais qui peut être un sourire, qui peut être un signe de la main pour montrer
Exactement.
Un objet ou autre chose, ou un son.
Il y a ce mot de dialogue. Hein, votre auditeur au Bénin disait que voilà, on peut avoir un dialogue avec un bébé. C'est ça qui est extraordinaire.
Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui s'en sont déjà aperçus hein, s'ils sont avec un bébé à côté d'eux. Clémence Perronnet, qu'est-ce qu'il en est pour la compréhension des nombres, des quantités, des formes géométriques de l'espace? De quoi est capable le cerveau d'un petit enfant? Qu'est-ce que ça vous évoque, ce qu'on vient de dire avec Florent de Bodman?
Moi d'abord, je voulais dire à quel point je trouve intéressant que aujourd'hui des travaux comme ceux de mon collègue permettent de regarder ce qui se passe très très jeune et du point de vue des neurosciences, parce que les inégalités devant le langage, c'est quelque chose qu'on a observé en sociologie depuis longtemps, mais chez des enfants plus âgés et puis d'un point de vue purement social. Donc ce qu'il dit, ça m'a rappelé une très belle enquête de Basil Bernstein dans les années 70, où il avait mené tout un protocole d'enquête avec des enfants d'âge primaire, donc ce qui permet de voir les résultats en fait, de ce que dit Florent de Bodman, de ce qui se passe en maternelle. Et ces enfants, on leur montrait des images et on leur demandait de raconter l'histoire qu'ils pensaient voir dans ces images. Et ce qu'ils constataient, c'était à quel point la classe sociale à l'âge auquel les enfants sont en primaire joue à plein.
Oui.
Parce que les enfants des classes défavorisées, par exemple, quelque chose de très précis, c'était qu'ils utilisaient beaucoup plus de pronoms que de noms. Donc, par exemple, on leur montrait des petites images et au lieu de dire « un homme joue au football et une femme arrive », ils disaient « il joue au football, elle arrive ». Et finalement, le
par manque de vocabulaire,
était beaucoup plus difficile à comprendre.
Oui.
Et voilà, je trouve que c'est passionnant qu'on ait maintenant le regard sur la création de ces phénomènes-là et qu'on puisse éclairer des choses qu'on avait sur les enfants plus âgés dans les années 60.
Vous qui avez travaillé
sur les
mathématiques, sur les sciences, etc. Est-ce que, en gros, je vais vous reposer la question, est-ce qu'un bébé de prof de maths, il ne joue pas de la même façon, il ne parle pas de la même façon avec son papa ou sa maman qui est prof de maths?
Si, c'est évident, on a exactement les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que plus tôt on va socialiser, c'est-à-dire éduquer, familiariser les enfants à des concepts scientifiques, plus tôt ils vont en être familiers. Et alors, avant même de parler de capacité cognitive, de compréhension du chiffre ou de la géométrie, en fait, c'est vraiment se familiariser avec les objets. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière où j'étais... dans un grand centre de recherche en mathématiques. Il y avait un couple de mathématiciens et de mathématiciennes qui faisaient un séjour de recherche avec leurs enfants, qui avaient 2 et 4 ans. C'était passionnant parce qu'on voyait les tout petits être dans une salle de recherche mathématique. Il y avait un jeu d'échecs, il y avait un jeu de go. Ils étaient bien incapables d'y jouer, et surtout le petit qui avait 2 ans. Mais ils étaient assis sur le plateau de jeu.
Ah oui.
Et ils jouaient à poser les pièces. Et le plus grand, il avait accès au tableau, vous savez, le classique tableau à craie des mathématiciens. Et il était déjà en train de prendre les craies. Alors, il faisait pas des maths, évidemment, mais il dessinait. Et c'était un exemple frappant de la façon dont on peut s'approprier des objets, des pratiques, vraiment des choses très concrètes qui, ensuite, sont des marqueurs des gens familiers des sciences, des gens familiers des mathématiques.
Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimidation pour ces matières-là, puisqu'on les voilà, a touchés du doigt dès son plus jeune âge.
On les a touchés, on a même pu baver dessus, et ça nous impressionne beaucoup moins.
Alors, vous nous appelez les voisins et les voisines. Hein. On parle du cerveau des enfants et pourquoi il est si important de dialoguer avec ses enfants avant 3 ans au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Cissé qui nous appelle. Cissé qui est à Conakry en Guinée. Bonjour Cissé.
Bonjour Emmanuel, c'est Cissé Karfala, effectivement, depuis Conakry, République de Guinée, je suis un ingénieur agropédologue.
Eh bien, merci de nous appeler Cissé. Alors, vous avez des enfants entre 2 ans et 11 ans, et vous souhaitez nous parler de votre fils de 2 ans qui vous pose énormément de questions.
Tout à fait, Emmanuel. C'est un enfant qui m'embête beaucoup. Chaque fois qu'on est ensemble, il me pose énormément de questions, même s'il est censé de connaître même la question, la réponse même de la question. Et puis me demander, mais où est papa? Je dis, mais c'est moi qui est devant toi. Oui. Et il rit. Oui. Et il peut même connaître aussi le nom d'un animal. Mm-hmm. Il peut me demander encore, papa, ça c'est quoi ça? J'essaie de assembler des fois, si c'est un chien, je dis c'est un chat. Il dit non, c'est pas un chien.
Ah, oui.
C'est pas un chat, mais c'est un chien.
Mais alors, il est très joueur, votre fils, hein, j'ai l'impression. Il a...
Effectivement.
Il a envie de jouer avec vous par le dialogue, finalement, et par les mots.
Effectivement. Ouais. Effectivement. Donc, des fois, il m'embête, même si je suis en train de travailler. Bon, il me pose énormément de questions. Bon, j'aimerais savoir maintenant, si vous ne pouvez pas répondre à toutes ces questions, comment les esquiver afin de continuer à travailler et de ne pas faire mal aussi à l'enfant.
Qu'est-ce que vous faites comme travail, Cissé?
Je suis un ingénieur agropédologue. Bon, des fois, on a des rapports à rédiger après... les travaux sur le terrain, ainsi de suite.
D'accord, je comprends. Vous êtes un homme occupé, mais en même temps, vous passez du temps avec votre enfant. Et votre enfant, il est très demandeur de cette conversation avec vous.
Effectivement. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Cissé, Florent de Bodman, quand on n'a pas le temps de répondre là tout de suite à la question de l'enfant?
C'est sûr que ça arrive à tous les parents d'avoir pas le temps pour l'enfant, pour travailler, parce qu'on doit travailler, parce qu'on doit préparer le repas, faire le ménage. Et alors là, une chose intéressante à dire, c'est que de plus en plus, les parents, dans ces cas-là, ils sont tentés de donner leur smartphone à l'enfant. Parce que c'est assez magique, l'enfant va être captivé et tout de suite, il va être silencieux. En fait, le problème de ça, c'est que du coup, l'enfant, il reste passif. Et ça tue le dialogue avec le parent. Alors nous, justement, dans notre association Mille et un mots, ce qu'on propose dans ces cas-là, c'est par exemple d'encourager l'enfant à imiter le parent. Un exemple, si vous êtes en train de préparer le repas et que voilà, votre bébé vous tire par la manche, vous pose des questions, vous pouvez lui donner une casserole, une cuillère en bois et il va être encouragé à vous imiter, à jouer, à faire la cuisine et ça va être plus riche pour lui et il pourra quand même vous laisser un peu de tranquillité
faire le repas. Et puis on peut aussi lui dire, je vais te répondre tout à l'heure, mais là je suis en train de faire quelque chose, tiens, je te donne des papiers, puisque si c'est peut-être que vous êtes sur votre ordinateur, vous devez rédiger un rapport, vous pouvez peut-être donner des papiers qui sont à côté de vous, qui ne servent plus à rien, vous dire, tiens, toi aussi, tu peux travailler en attendant que je te réponde, tout simplement.
Ou dessiner, ou tout à fait, oui. Et d'ailleurs, un enfant très petit peut commencer à faire des lignes, et pour faire écho à ce que disait Clémence, faire des lignes, déjà, c'est un peu presque le début de la conscience géométrique aussi.
Ouais, c'est déjà faire des maths, un crayon et un papier. Si c'est, est-ce que cette réponse vous convient? Est-ce que ça peut vous aider?
Oui, vraiment, ça pourra m'aider beaucoup.
Merci à vous, en tout cas, de nous avoir appelés.
Les voisines et les voisins, merci beaucoup.
Merci, et restez surtout à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission, si c'est. Juliette nous appelle de Bobo-Dioulasso, Burkina. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Juliette, vous êtes couturière. Vous avez une fille de 2 ans et demi qui est souvent avec vous dans l'atelier. C'est formidable parce qu'elle voit plein de choses, j'imagine, plein de belles créations. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à parler avec elle? Et je crois que vous avez une question aussi à poser à nos invités.
Oui. Et elle est extrêmement éveillée, elle est partout, elle veut coudre, elle veut tout faire, surtout elle, comme ses grands frères, elle veut écrire, elle veut lire, elle veut compter, elle veut chanter l'hymne national, elle veut chanter les chansons de l'école. Et nous, on ne sait plus où mettre la tête. Ouais, partout, ça parle. Et un jour, on a une cliente qui est rentrée dans l'atelier, après qu'on ait fini de discuter, elle est repartie sans son portefeuille. Et moi, je l'ai raccompagnée et très vite, elle nous a ramené ça à la moto pendant qu'on était en train de discuter. Et personne ne s'était rendu compte, la dame ne s'était même pas rendu compte qu'elle avait oublié son portefeuille. Ouais. Là, c'est 2 ans et demi. Ouais.
Ah, et c'est votre fille de 2 ans et demi qui avait observé que ce portefeuille appartenait à votre cliente.
Effectivement, ouais. Elle l'a ramené. Ouais.
Ouais. Ça veut dire que votre fille, elle perçoit, en fait, elle comprend tout ce qui se passe dans l'atelier.
Oui. Parce qu'elle est tout le temps avec nous. Et elle fréquente les clients qui rentrent, elle nous écoute, elle participe, elle parle, elle nous fait rire. Souvent, on n'en peut plus les questions. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux tout savoir.
Ouais, j'ai l'impression que je l'entends à côté de vous. Hein.
Oui,
elle est à côté de vous. Vous avez une question.
Elle n'est pas à l'école.
Oui, elle n'est pas à l'école aujourd'hui. Ben non,
non,
forcément.
Elle n'a
pas au jardin. Bien sûr, elle ne va pas au jardin d'enfants encore, hein, bien sûr.
Non,
vous avez une question à poser, Juliette, à nos invités.
Oui, je voulais savoir, est-ce que, bon, vu son âge et qu'on a remarqué qu'elle est vraiment éveillée, elle arrive à compter avec ses frères qui font le CP1 et la classe de CP1 à réciter, est-ce qu'on devrait en profiter pour le faire apprendre autre chose? Et peut-être une autre langue, ou peut-être l'aider, le laisser aller simplement, ou bien on peut l'accompagner pour qu'elle puisse en apprendre davantage.
Vous lui parlez en quelle langue à votre fille, Juliette?
Bon, on la parle, elle parle le français couramment, elle parle le djoula, comme on est à Bobo, et puis elle comprend le moré.
Fantastique ça quand même. Presque 3 langues déjà à 2 ans et demi. Alors, est-ce qu'une petite fille qui est très demandeuse comme ça, il faut lui en donner encore plus que ce que l'éponge cherche à absorber déjà, hein, puisqu'on a comparé le cerveau des enfants de cet âge-là à une éponge, ou pas, au risque que ce soit trop? Qu'est-ce que vous conseillez, Florent de Bodeman?
Eh bien, déjà, effectivement, je trouve ça assez incroyable qu'un bébé entende 3 langues différentes à cet âge-là. C'est une richesse assez magnifique. Ce que nous montrent les neurosciences, c'est que si on entend 3 langues à ce moment-là, eh bien, on va beaucoup, beaucoup mieux parler ces 3 langues à l'âge adulte que si on n'en avait entendu qu'une seule petit et les 2 autres à l'adolescence. Parce que ces premières années, eh ben, c'est le meilleur moment pour rentrer facilement dans une langue. Donc déjà, ce que je voudrais dire à votre auditrice, c'est qu'elle a une chance énorme, votre fille, parce que sans effort de sa part, elle va parler ces 3 langues à l'âge adulte, ce qui est une très grande richesse pour elle. On voit que les enfants bilingues ou trilingues comme ça, ça encourage leur curiosité. Donc c'est déjà, elle a beaucoup de chance déjà.
Alors, petite parenthèse pour des parents qui ne maîtriseraient pas bien le français, qui se seraient installés en France récemment. Évidemment, la langue maternelle a tout son intérêt pour le développement du cerveau de leur enfant. Et parler dans sa langue maternelle, même si l'enfant vit dans un milieu d'une autre langue, c'est une richesse. On est bien d'accord là-dessus.
Ah oui, absolument. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans notre association Mille et un mots avec les parents. Une chose qu'il faut savoir, c'est que si un enfant... il rentre à l'école, un enfant qui vit en France. Si il apprend à parler dans la langue maternelle de son parent, donc mettons le soninké, et que il rentre à l'école à 3 ans en parlant très très bien le soninké, eh bien, il a déjà les structures du langage dans sa tête, dans son cerveau, et donc ça va être facile pour lui de basculer ensuite vers le français. Donc déjà, il ne faut pas avoir d'inquiétude, en effet. Et c'est vrai que beaucoup de parents qui sont en France et qui viennent de pays africains peuvent être inquiets là-dessus, parce qu'ils peuvent se dire « Est-ce que ça vaut la peine que je parle en soninké ou dans ma langue maternelle ?»
Est-ce que ça ne va pas désavantager mon enfant qui, lui, va à l'école en langue française?
Voilà.
Et en fait, pas
non,
du tout.
Non. Et après, il y en a beaucoup aussi qui parlent les 2 langues, du coup, à la fois soninké et français, si c'est leur choix. Et c'est très bien aussi pour l'enfant.
Ça peut parfois créer une petite confusion au démarrage. Hein, pour les enfants, certains enfants qui sont sur plusieurs langues peuvent parler un petit peu plus tard. Mmh. Mais ensuite, par contre, non seulement ils rattrapent, mais c'est un énorme enrichissement pour leur cerveau. Mmh.
Exactement.
Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant parle un petit peu moins qu'il ne faut pas converser avec lui dans plusieurs langues. Il ne faut pas s'effrayer ou s'inquiéter. s'inquiéter là-dessus. Alors, exactement. Pour revenir à la question de Juliette, il y a les grands frères là, qui oui. tirent beaucoup votre petite fille de 2 ans et demi vers le haut. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire que ça la stimule aussi énormément, les grands frères qui sont à l'école primaire. Est-ce qu'il faut que Juliette propose à sa petite fille de 2 ans et demi des activités qui sont pour les grands frères?
Elle peut essayer. En fait, ce qui est vraiment utile, c'est d'observer ce que l'enfant commence à faire. C'est-à-dire essayer de voir à quoi il s'intéresse. Typiquement, c'est vrai que si elle commence déjà à compter comme ses grands frères, ça veut dire qu'elle est mûre pour ça, elle a un intérêt pour ça. Et donc, proposer des jeux oui, autour de des nombres, certainement, c'est quelque chose qui va lui plaire. Et après, si par contre, un jeu qui est proposé et auquel elle ne répond pas du tout, si elle ne réagit pas du tout, mais ça veut sans doute dire qu'elle est trop petite pour ça, qu'il ne faut pas insister à ce moment-là, mais peut-être plus tard, dans 2 mois, dans 6 mois.
Oui, surtout ne pas chercher à faire du bourrage de cerveau, bien non, évidemment, non, mais quand l'enfant est demandeur, l'accompagner. Est-ce que Juliette, on vous a donné des éléments là pour que l'atelier oui, oui. soit plus calme et que votre petite fille puisse trouver à s'occuper?
Oui, oui, non, elle a une ardoise, la craie, elle a son sac, elle veut tout faire comme les grands de l'école. Hein. Donc, elle fait du grabouillage, elle se débrouille un peu. Bon, moi, je l'observe parce que je n'ai pas trop le temps pour lui apprendre grand, mais je l'observe quand même faire. Quand elle finit d'écrire, elle vient me montrer, maman, regarde ce que j'ai fait.
Ouais.
Je dis, c'est bien.
Ouais, ouais. Clémence Perronnet,
ouais,
peut-être.
Si pas de sens,
eh ben restez en ligne avec nous, Juliette, parce que Clémence Perronnet, une petite fille qui passe, qui n'a pas encore l'âge d'aller au jardin d'enfants ou à l'école maternelle, une petite fille qui est dans l'atelier de couture de sa maman, elle peut faire aussi beaucoup de choses avec des morceaux de tissu. Ça s'appelle déjà de la géométrie ou pas?
Je crois que c'est pas à nous de décider si ça s'appelle de la géométrie, mais surtout c'est pas grave finalement. Je pense que, comme on l'a dit, le principal c'est de la laisser libre d'explorer tout ce qu'elle a envie d'explorer sans la forcer. Si elle n'apprend pas la géométrie, ma foi, elle apprendra la couture, ce sera tout aussi bien. Et non, il y a vraiment cette idée que là, rien ne sera perdu en fait dans cette exploration et dans cette place laissée à l'enfant de faire ce qu'il a envie de faire. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce que cette maman nous a dit sur sa fille, c'est de toujours garder ça, en fait, de garder cette impression très positive qu'ils ont sur leur petite fille maintenant, qu'elle a de la curiosité, qu'elle a envie de connaître, et de se souvenir que plus ils vont décrire leur petite fille comme ça, plus elle va être comme ça. C'est, en fait, voilà, ça m'a vraiment fait penser à cet effet-là qu'en psychologie sociale et en sociologie, on appelle l'effet Pygmalion, c'est-à-dire toute cette capacité qu'ont les adultes, alors pas seulement les adultes, mais vis-à-vis des enfants, surtout les grands d'abord, à transformer les plus jeunes par leurs mots et par la façon dont ils les voient et ils les regardent. C'est cette idée qu'en fait, on a le pouvoir de rendre les gens comme on pense qu'ils sont. Donc si on pense que notre enfant, il est très éveillé, très curieux, très intelligent, on va le pousser dans cette voie, en fait. Ouais. Surtout si on le dit, surtout s'il est à côté et qu'il entend qu'on dit qu'est-ce qu'il est éveillé, qu'est-ce qu'il est intelligent.
Et la fille de Juliette, elle est juste à côté de Juliette, hein, elle a 2 ans et demi, elle a parfaitement entendu comment sa maman parlait d'elle, qui remarque tout, qui observe tout ce qui se passe dans l'atelier, qui est même capable de faire penser à une cliente à ne pas oublier son portefeuille. Merci beaucoup, Juliette, de nous avoir appelé de Bobo-Dioul Asso. Très belle journée, très belle journée à vous.
Merci.
Vous continuez à nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Sarah est en ligne avec nous de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous souhaitez nous parler des activités que vous faites, je crois, avec votre nièce, et vous avez une question à poser à Clémence Perronnet justement sur le goût des sciences pour les filles.
Ok. En fait, pour communiquer avec les enfants, je leur souris beaucoup. Je leur parle. Je ne les quitte pas des yeux. Je leur fais des mimiques. Et par exemple, avec ma nièce, quand je le faisais, j'avais l'impression qu'elle comprenait ce que je disais parce qu'elle restait calme. Et quand elle réagissait, soit elle sourit, soit elle balbutiait. Donc, je me disais qu'elle comprenait.
Ouais.
Et aussi, je lui racontais des contes de fées. Je lui parlais de la nature, par exemple, la lune, le soleil, les animaux. Et aussi, Je lui racontais des petites histoires avec des leçons de politesse, voilà, telles que la gentillesse et tout ça.
Oui.
Et en général, j'utilise des livres avec les enfants.
Oui.
Je leur montre des couleurs, les couleurs vives surtout, telles que le jaune.
Mm-hmm.
Et parfois, je leur dis qu'ils sont beaux ouais, ou, qu'ils sont, ou qu'elles sont belles. Et ça les fait généralement réagir.
Ah oui.
Bon, maintenant, ma question, puisque ces enfants ont une capacité, une grande capacité d'apprentissage, j'aimerais savoir comment on pourrait stimuler les petits-enfants, surtout les petites filles, le goût des mathématiques, pour que dans l'avenir, elles ne se disent pas que les mathématiques, ce n'est que pour les garçons. Parce ouais. qu'il y a généralement des inégalités dans ce domaine.
Il y a aussi un message d'ailleurs de Souleymane qui est prof de maths au collège en région parisienne et qui dit « Ma fille depuis son plus jeune âge est littéraire parce qu'elle lit beaucoup. J'ai fait ce que je pouvais pour qu'elle aime les maths, mais elle n'accrochait pas. Pourquoi ça n'a pas marché pour elle ?» Donc sous-entendu, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la petite enfance ? Clémence Perronnet, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces questions d'auditeurs ?
Alors d'abord sur la question de comment donner le goût des maths. Ce que les enquêtes sur les jeunes enfants nous montrent, c'est que les petits, quand ils entrent à l'école primaire, donc vers 6 ans, en général, le goût, il est présent. On n'a pas de gros écarts de goût, d'intérêt, de curiosité pour les maths et les sciences chez cet âge-là. Par contre, c'est à partir de cet âge-là que petit à petit, on a des écarts de performance. Là, on a eu des nouveaux résultats qui montrent que les petites filles, en un an de CP en France, elles perdent beaucoup de points sur leurs résultats par rapport aux garçons. Alors, elles les rattrapent après, mais c'est quand même un phénomène intéressant. Donc, en fait, c'est le goût, finalement, il a l'air de naître assez facilement. L'enjeu, c'est plutôt comment pas le perdre et comment ne pas arriver à ce que les filles se découragent. Et alors ça, je voudrais aussi rassurer Souleymane, qui est la deuxième personne, c'est probablement pas de sa faute, c'est vraiment probablement pas lui qui a fait quoi que ce soit. C'est en fait, il faut lutter, et c'est ça qui est très difficile, contre une société tout entière qui envoie le message que les filles ne sont pas faites pour les sciences. Et c'est ça qui est très dur en fait, c'est le moment où les petites filles vont être confrontées à l'école, via la télé, via leurs copains, leurs copines, dans le monde social, à tous ces petits messages répétés. Donc elles vont regarder des dessins animés et elles vont se rendre compte que tous les scientifiques des dessins animés, ce sont des hommes. Puis elles vont être emmenées dans un centre, dans un musée, voir des expositions sur les sciences, pareil, que des hommes. Elles vont regarder parce qu'elles aiment les sciences, c'est les émissions de vulgarisation scientifique, et là, pareil. Donc c'est petit à petit que la possibilité de s'identifier aux maths et aux sciences est mise à mal, en fait. Et c'est là que, tout d'un coup, on perd un peu son intérêt, et puis on devient convaincu que finalement, c'est peut-être pas pour nous. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer, dès qu'on peut, d'éviter ça, ou de le faire remarquer en disant bien que il ne faut pas se laisser arrêter par le fait qu'il n'y a pas d'image, pas assez d'image de femmes en sciences, et de dire, tu sais, il y en a. Et ce n'est pas parce qu'on fait des sciences qu'on est obligé, par exemple, de renoncer à d'autres marqueurs de féminité. C'est une grande inquiétude chez les petites filles. Est-ce que je vais devenir moche si je fais des maths?
Ah oui.
Est-ce que je vais devoir ne pas avoir de bébé si je fais des sciences?
Ça, c'est pour la question des filles, mais pour la question sociale. On sait que dans un système comme le nôtre et dans de très nombreux pays, les sciences, les maths sont des matières qui organisent la sélection scolaire. Est-ce que pour autant, ce ne sont pas des matières où le milieu social pèse moins lourd parce que les matières littéraires, il y aurait peut-être besoin de plus de culture générale, d'aisance de la langue, de l'écriture. Est-ce que dans les matières scientifiques, on va retrouver quand même plus d'élèves bons en maths, bons en physique, de milieux modestes?
Alors, on a cru longtemps qu'effectivement, les sciences et les mathématiques étaient peut-être moins discriminantes socialement que les humanités, parce qu'il y a cette association de la culture littéraire et artistique aux classes les plus aisées. En fait, ce dont on se rend compte avec de plus en plus d'enquêtes, c'est que ce n'est pas le cas, malheureusement, et que les sciences et les maths sont aussi très discriminantes socialement. Alors, j'ai étudié le cas de la France, mais les enquêtes dans les pays anglo-saxons donnent les mêmes résultats, c'est assez international. Actuellement, en France, c'est 40% des enfants de cadres et des enfants de profs qui faisaient des études scientifiques au lycée, contre seulement 5%
des enfants d'ouvriers. Donc l'écart, il est hallucinant. Vraiment un écart très très fort.
Dans votre enquête que vous avez menée auprès d'enfants à Lyon en classe de CM1, on a 49% des élèves qui aiment beaucoup les mathématiques et qui ne présupposent pas de ce qui pourrait se passer par la suite. Et en classe de 4e au collège, ils ne sont plus que 11% à aimer les mathématiques. Est-ce que ces 11% sont les enfants des familles les plus aisées et qu'on a perdu les autres en route ?
Dans cette enquête-là, en plus, c'était presque uniquement des enfants issus de milieux populaires. Mais effectivement, ceux qui gardent leur goût pour les sciences sont ceux qui sont issus des familles relativement les plus aisées. Alors là, moi, j'avais pas d'enfants de cadre ou pas d'enfants de prof, mais c'était les enfants d'employés, les enfants de parents qui étaient dans un milieu proche du milieu scientifique, par exemple le médical, qui avaient des positions un peu stables dans la fonction publique. Donc oui, ça se rejouait. Et là, en fait, se pose un peu la même dynamique que pour les filles. Donc là où les filles perdent progressivement leur goût, les jeunes issus des milieux les plus modestes, eux aussi, ils aiment les sciences, ils aiment les maths au début, et puis ça s'étiole progressivement. Et ça, c'est lié à un deuxième phénomène qui est que non seulement tous nos scientifiques dans les médias, dans les livres, à la télévision, presque tous, ce sont des hommes, mais en plus, on les présente comme des gens absolument géniaux. Il y a cette figure du génie, de l'homme exceptionnel va gagner son prix Nobel en sciences, qui va sauver le monde ou le détruire, parce qu'il y a aussi le côté scientifique fou. Et tout ça, comme ça enlève la possibilité pour les petites filles de s'identifier parce qu'il y a très peu de femmes, ça enlève la possibilité pour les enfants qui se perçoivent comme normaux, des enfants ordinaires, de se projeter là-dedans. Parce que tout de suite, c'est... Il faut être incroyablement intelligent, il faut être incroyablement brillant, il faut être prêt aussi à mener une vie un peu de folie, et ça n'attire pas du tout.
Alors évidemment, bon, peut-être que ça ne suffit pas d'avoir des modèles exceptionnels qui nous ressemblent, une femme si on est une fille, etc. Vous, ce que vous dites, Florent de Bonnemann, c'est que aujourd'hui, les politiques publiques pour réduire les inégalités se concentrent sur l'école, notamment l'école primaire avec le dédoublement des classes au cours préparatoire pour favoriser l'apprentissage de la lecture, un petit peu aussi à la maternelle, mais qu'on a complètement laissé de côté la petite enfance. 5% des familles les plus défavorisées fréquentent les crèches, au moins 3 jours par semaine, contre 4 fois plus pour les familles aisées. Comment se fait-il que, puisqu'à la crèche, on a des puéricultrices, on a des personnes qui ont suivi une formation pour s'occuper des enfants, il y a des livres, des albums illustrés, des jouets, des jeux éducatifs, etc. Comment se fait-il que les enfants des familles les plus pauvres n'aient pas accès à la crèche ?
Eh bien, la principale raison, c'est que la crèche, elle reste beaucoup réservée aux parents qui travaillent tous les deux. Je voudrais vous raconter l'histoire d'une mère que j'ai rencontrée récemment avec notre association Mille et un mots. Elle s'appelle Susanna. Elle a 2 filles qui ont 1 an et 4 ans. Et quand la première était petite, elle avait pu avoir une place en crèche parce qu'elle avait un CDI. Et donc on lui avait dit, vous travaillez, ok, vous avez une place en crèche. Et puis, entre-temps, elle travaillait dans la restauration et en fait, ça avait été très très mauvais pour sa santé. Donc elle avait dû quitter ce job. Et donc au moment de la naissance de sa 2e fille, quand elle avait voulu chercher une place en crèche, là, elle n'avait pas de travail. Et on lui avait dit, non, écoutez,
vous n'en avez pas. Prioritaire.
Voilà, ce qui était très difficile pour elle parce que, elle avait très envie de travailler. Elle nous a dit « Moi, je ne veux pas rester à la maison. Je trouve ça trop dur d'être toute seule. J'ai envie de sortir, d'être active. » Donc, elle avait très envie de ça, mais c'est très difficile de trouver un travail quand vous n'avez pas de place en crèche. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux très difficile et qui change très lentement.
Oui, ça veut dire que dans votre rapport pour le groupe de réflexion Terra Nova, vous plaidez pour la création de 200 000 places de crèche supplémentaires d'ici 10 ans dans un pays qui n'est pas submergé par sa démographie. Est-ce que ce n'est pas énorme ? Est-ce que c'est faisable d'un point de vue budgétaire ?
Alors oui, c'est, enfin, je suis convaincu que c'est faisable si on prend conscience de l'importance de l'enjeu. Effectivement, le coût de l'ensemble de ces mesures pour Terra Nova qu'on propose, ce serait environ 2 milliards de plus par an. Et juste un exemple, récemment, il y a eu donc ce grand Ségur de la santé qui a donc revalorisé fortement les salaires des professions de la santé. Eh bien, ça représentait 12 milliards d'euros par an d'efforts, donc 6 fois plus. plus.
Est-ce qu'il y a des pays qui ont fait ce choix de miser sur la petite enfance pour limiter les inégalités? Est-ce que c'est un meilleur choix budgétaire qu'ensuite d'essayer de ramer contre les inégalités scolaires à l'école primaire, au collège, où on a l'impression peut-être que c'est déjà trop tard?
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus d'études économiques, notamment, qui montrent que c'est un très bon investissement de faire plus de crèches, plus de programmes pour les tout-petits. Juste un chiffre, il y a un prix Nobel d'économie, James Heckman, qui a montré que les meilleurs programmes pour la petite enfance, eh bien, si vous investissez 1 $ au début, ça rapporte 7 $ à la société sur l'ensemble, sur les 30-40 années qui suivent. Donc, et c'est un chiffre fort qui a par exemple été cité par Joe Biden quand il a lancé son programme pour les familles américaines là récemment. Et peut-être un autre exemple plus proche de nous, en Allemagne, il y a encore une dizaine d'années, l'Allemagne était donc très très inquiète de sa démographie. Il y avait un très faible taux de fécondité, très peu d'enfants par femme. Et ils se sont dit, le problème c'est que les femmes peuvent très peu travailler quand elles ont des bébés parce qu'on a très peu de crèches. Et ils ont lancé donc un fort investissement dans les crèches et ils ont réussi à rattraper la France il y a peu de temps. Ils ont dépassé la France en nombre de crèches.
Ouais, et pourtant, vous qui êtes ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances, quand on parle de la petite enfance, ça n'intéresse pas grand monde, non?
Oui, c'est vrai que je pense que c'est encore beaucoup vu comme un sujet féminin, un sujet de femme, et pas un sujet très important, pas un sujet très noble. C'est clairement moins important que la politique monétaire ou que la diplomatie dans le monde des ministères. Oui, tout à fait.
Ouais. Et vous, alors, comment vous avez été amené à vous intéresser à la petite enfance, vous diplômé de l'ENA, ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances, et comment vous avez été amené à créer l'association Mille et un mots, qui est vraiment une start-up associative d'aide à la parentalité, et c'est pour combler finalement l'absence de l'État sur ce sujet?
Oui, enfin, pour essayer d'inventer des nouvelles solutions qui n'existent pas encore. Moi, au ministère, je travaillais sur les budgets de la lutte contre la pauvreté, enfin, les politiques sociales. En France, elles représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros de dépenses par an. Et ce qui a été frustrant pour moi, c'est que je me suis rendu compte que souvent, les personnes qui sont dans la pauvreté à 25 ans, à 30 ans, c'est difficile qu'elles en sortent. Et j'ai découvert des études scientifiques qui montrent que si, au lieu de réparer ces problèmes de pauvreté, si on les prend à la racine, eh bien, ça peut être beaucoup plus efficace. Et notamment juste une que je voudrais citer qui s'appelle le Carolina Abecedarian. Elle a suivi des enfants qui avaient été plusieurs années dans une crèche de très très bonne qualité éducative. Et elle a montré que rien que ces premières années en crèche...
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, absolument. Ouais, dans les années 70, c'était. Eh bien, rien que ces premières années en crèche, ça avait suffi à faire deux fois plus de chances d'avoir un bon job, un emploi qualifié quand ces enfants étaient adultes. Ça m'a énormément marqué et je me suis dit, mais pourquoi cette étude n'est pas plus connue en France? Pourquoi on ne fait pas plus de choses sur la petite enfance en France?
Et à l'association Mille et un mots, avec des moyens relativement simples, finalement, vous parvenez à des résultats, rien qu'avec du suivi de parents, avec des SMS qui sont envoyés tous les jours, du dialogue par téléphone, des mises à disposition aussi d'albums illustrés pour les enfants. Il n'y a pas forcément besoin d'un bac plus 5 pour appliquer en fait tout ce dont vous venez de parler.
Oui, tout à fait. Je voulais vous donner un autre exemple pour qu'il le montre. C'est une mère qui s'appelle Oksana, qui avait un petit garçon de 2 ans. Quand on l'a rencontré, elle n'avait jamais encore essayé de regarder des livres avec lui. Sans doute parce qu'elle-même n'était pas très à l'aise avec la lecture et elle ne se sentait pas en confiance pour choisir des livres pour son enfant de 2 ans. C'est vrai que ce n'est pas si facile. Comment savoir quels livres vont lui plaire à 2 ans? Son petit garçon à 2 ans, il parlait à peine. Donc elle a participé à notre programme et notamment en effet elle a reçu par la poste des livres adaptés à l'âge de son enfant que lui a envoyé notre association Mille et un mots. Son petit garçon, il a eu un énorme coup de cœur pour un de ses livres. C'était un grand imagier, très coloré. Un coup de cœur tellement fort qu'il ne voulait plus s'endormir sans le mettre sous son oreiller. Et il le gardait partout avec lui pendant les repas toute la journée. Et donc sa maman s'est dit, ça l'intéresse, ça lui plaît. Et elle s'est mise à regarder ce livre avec lui tous les jours. Elle nous a dit qu'elle avait vu de grandes différences, et notamment que son petit garçon s'était mis à dire des mots très différents, très nouveaux, notamment des noms d'animaux qu'il y avait dans cet imagier. Et que ça avait fait une grande différence pour lui, ensuite pour l'entrée à l'école.
S'il y avait un seul conseil à retenir pour les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants de moins de 3 ans,
Eh bien, je dirais parler avec l'enfant, essayer d'avoir un dialogue avec lui en lui posant des questions et en attendant, en observant la réponse de l'enfant.
Voilà. Et puis, si on peut compter, jouer à des jeux mathématiques, ça peut être encore plus amusant. Merci à tous les deux. Florent Bodman, vous publiez « À portée de mots, parler avec son bébé peut changer sa vie ». Il y a aussi le rapport de Terra Nova qui est disponible avec le lien sur notre page 7 milliards de voisins sur RFI.fr. Investissons dans la petite enfance. L'égalité des chances se joue avant la maternelle. Et merci à vous, Clémence Perronnet. La bosse des maths n'existe pas. Rétablir l'égalité des chances dans les maths scientifique. Tous les deux, vous publiez aux éditions Autrement. Merci et puis merci aussi à tous nos auditeurs qui nous ont appelés, Cissé, Sarah, Juliette et tous les autres. Et puis j'en profite aussi pour vous annoncer le lancement aujourd'hui de notre nouveau podcast, Le Monde des Enfants. Écoutez tout de suite des extraits, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le Monde des Enfants.
RFI Podcast.
L'amour, c'est la vie.
L'amour est un sentiment qui amène la paix, la joie.
J'ai vu une fille, elle est jolie, elle est tellement jolie.
L'amour rend les gens vraiment beaux.
Il m'a embrassé, moi aussi je l'ai embrassé.
Les enfants, on les entend peu à la radio. Pourtant, je crois qu'on a bien envie de savoir ce qui se passe dans leur tête. Et si on les écoutait s'exprimer sur le monde qui les entoure?
T'as pas besoin de prouver ton honneur en vrai. Tu sais que déjà que t'as de l'honneur.
Tant que je sais qu'au fond de moi,
j'ai de la valeur. J'ai
de la fierté, de la valeur. Moi, j'ai pas besoin des autres.
J'ai peur.
Tout le monde a quelque chose qui lui fait peur.
Sauf moi.
Hey!
Tu m'as surpris!
La peur, c'est l'inconnu, quelque chose qu'on ne sait pas encore.
Je m'appelle Charlie et de Lomé à Conakry, en passant par Paris, avec mon micro, je me mets à la hauteur d'enfants âgés de 7 à 13 ans. On s'assied par terre, tous en cercle, autour du micro, et on commence à discuter. D'abord timidement, puis souvent les langues se délient. Je leur demande « Et si je vous dis le mot « amour » ?» Le mot « honneur ». La peur ? L'avenir ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Jamais.
Je pense que dans ta tête...
Quand il y a des moments comme ça que je ressens, j'ai envie de me battre.
Oui, mais à part avec...
Je te dirais, les garçons, c'est comme ça.
Oui, j'avoue.
Écoutez bien.
On vous donne notre regard sur le monde.
Le Monde des Enfants, un podcast proposé par l'émission 7 milliards de voisins sur RFI.fr et toutes les plateformes de podcast. Des discussions d'enfants de 4 à 5 minutes qui vous feront réfléchir et grandir. Et les premiers épisodes sont disponibles, alors n'oubliez pas de télécharger ce nouveau podcast 7 milliards de voisins, ça s'appelle Le Monde des Enfants, et puis de donner aussi votre avis, et pourquoi pas de faire écouter ces podcasts à des enfants beaucoup plus jeunes, hein, puisqu'entre 0 et 3 ans, ils comprennent ce qu'ils entendent. Voilà, dans quelques instants, le journal. Demain, 7 milliards de voisins, on se retrouve pour parler des réseaux sociaux. Ils passent plusieurs heures par jour sur TikTok, YouTube, Instagram, mais que font les adolescents sur les réseaux sociaux? Si vous pouvez regarder par-dessus leur épaule, vos réponses nous intéressent et vous pourrez aussi questionner nos invités. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Merci aussi à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast pour les réécouter quand ça vous arrange, avec ou sans connexion Wi-Fi. À demain.